Bonjour Denis, bonjour à tous. J'ai appris la nature et la spiritualité en même temps.
C'est ça.
Sur les joues de mon grand-père. C'était le compagnonnage des plantes entre elles et c'était l'écologie.
C'est ça.
Mais on ne savait pas.
CO2, mon amour, sur France Inter.
Quand j'étais jeune, je pensais savoir tout. C'est l'époque où j'étais un activiste, comme on dit aujourd'hui. J'ai mené de grandes batailles. J'ai organisé des manifestations dans les rues, à Thionville. J'ai parlé d'un balcon.
CO2, mon amour, avec Denis Chessoux.
Aujourd'hui, je suis devant des quantités de mystères parce que je pose des questions que je ne posais pas, qui ne sont pas dans les livres.
Bonjour à tous, bienvenue dans ce magazine de nature et d'environnement. Avec aujourd'hui Enzo Laborie, Charles Pélabon, le soleil aussi, et assisté de Caroline de Bresse et Stéphane Ronxin qui réalisent l'émission. Plus de balade dans ton jardin lorrain. Ce mercredi d'hiver, qui n'en a que le nom, il y eut un léger frémissement dans l'air. Et puis une envolée de pollen vers le ciel. Les abeilles, pourtant au repos, ont colporté la nouvelle. Tes mirabelliers, tes noyers ont compris tout de suite. Dans le monde entier, les plantes et les forêts ont su les premières, avant les hommes. Elles se sont donné le pistil, le rhizome, la feuille, la fleur. De battre son cœur s'est arrêté. Comme un battement d'ailes de papillon, une traînée de larmes et d'amour. Petit Jean était mort. L'enfant de Dieu qu'il était est parti rejoindre les siens en Lorraine, quelques heures avant la nativité, avant Noël. Le sens du timing, Jean-Marie, tu l'as fait exprès, ça. La nature et la foi réunies dans le même amour et le même bonhomme. Petit Jean est toujours resté un enfant, avec sa capacité d'émerveillement, mais aussi son sens critique. Mais avant tout, un enfant, un petit Jean. Buffon, Linné, Lamarck, Darwin, Théodore Monod, Robert Schumann, tous étaient là mercredi pour t'accueillir. Tu étais un savant, un encyclopédiste des Lumières, un sage car tu supportais ce qui ne pouvait être changé et tu t'efforçais de changer ce qui pouvait l'être. Alors Monsanto, les marchands de phyto, Areva, les fabricants d'amiante et d'OGM feront l'économie d'une couronne de fleurs mardi à ton enterrement. C'est beaucoup mieux, car elle risquerait d'être arrosée de pesticides. Eh ben oui, on riait de notre mort. D'ailleurs, t'en as jamais eu peur, tu savais que tu serais sauvé. Tu étais un homme bon, avec tes tourments personnels, mais un homme bon, incapable de faire du mal. Éclairé, éclairant, engagé, tenace dans tes combats visionnaires. Mais avant tout, tu étais mon Jean-Marie, j'étais ton Denis, tu étais un frère, un père, mon ami. Une amitié comme celle du petit prince, parce qu'il y a 25 ans, on s'était simplement reconnus. Alors, lundi, je dormirai sur ton lit, dans ta chambre remplie de rêves et de mots qui nous servaient de studio. Michel-Ange Estette avait dessiné ton index, potelé qui nous indiquait un chemin possible au milieu des tempêtes. Tu étais un médicament naturel, sans contrefaçon. Un anticyclone de sagesse face à la bêtise et au con. Que l'on est toujours pour quelqu'un d'autre, nous empressions-nous d'ajouter. Tu étais un rempart de belle spiritualité face à la consommation effrénée qui décapite le vivant. La croissance économique se fait au prix de la décroissance écologique. Comme une tumeur cancéreuse ne s'alimente qu'au détriment de l'organisme qu'elle épuise. Dans les deux cas, le bilan final est désastreux. L'homme renaturé, 1977, Jean-Marie Pelt. Tu avais ton regard de bon toutou et d'enfant, qui savait les hommes. Alors on riait de tout, hein. L'amour dans lequel tu incluais la foi, la beauté et l'humour. Y a que ça qui nous sauve, Denis, et t'étais lucide. C'est bien joli de vouloir sauver les âmes, mais encore faut-il que les gens en aient une. Bah ouais. Contrairement à ce que pensent certains de tes détracteurs qui n'auront jamais ton aura, tu séparais très bien la science et la foi. Et tu condamnais le créationnisme. De la laïcité, tu étais un ardent défenseur. Et les critiques se cognaient sur tes rondeurs. Tu comprends, Denis, les églises sont vides, les médias sont pleins. Alors je vais dans les médias pour relier les gens entre eux et l'homme à la nature. C'était ça le grand œuvre de Jean-Marie, ravauder sans cesse l'homme et la nature. Dans la nature, rien ne s'oppose à rien. C'est l'homme qui a introduit la dualité. Et la dualité majeure est celle qui oppose l'homme à la nature. Merci à Kodo et Gareto, à l'oreille en coin de t'avoir proposé les premiers de faire de la radio. Viens, on va regarder le journal à la télévision pour voir ce que les hommes ont encore inventé pour bousiller la planète. C'était un grand éclat de rire. Et puis après, à table. Alors c'est vrai qu'en conférence, on avait une formule, on disait... En fait, on a deux nouvelles à vous annoncer. On a une bonne et une mauvaise. On va commencer par la mauvaise. Nous n'avons pas encore touché le fond de la piscine. Mais passons à la bonne, Jean-Marie. Oui, car il y a un fond à la piscine. En fait, on n'en savait rien. Mais c'est pas grave, parce que ça, on le croit quand même. Plus de balades dans le jardin lorrain. Merde alors. Tu aimais les plantes, les bêtes, ta Lorraine, Jésus, les roses anciennes, les gens, la science... La charcuterie, un peu trop. Non, Jean-Marie, je te retire le saucisson. Mais il est bio, il est bio. Non, sinon ton cœur va ressembler à un foie gras. Et nous, on a besoin de ton cœur, pas de foie gras. Mais si tu aimais les fleurs, c'est aussi parce qu'il y avait des hommes pour les regarder. Alors t'es parti au solstice d'hiver, quand la lumière remonte. Et nous, on n'aura jamais assez de la tienne. Ta lumière qui est déjà en nous. Tu aimais le cosmos, les étoiles, la voie lactée comme une flaque. Alors tenez, quand nous t'aurons accompagné près de tes parents et grands-parents aimés, à Rodemack, au soir de ce prochain mardi, on regardera un petit astéroïde dans le ciel, car il porte ton nom, Jean-Marie. Alors on va retrouver l'histoire de Petit Jean. De Petit Jean, c'était donc à travers les cartes routières, qui est une façon d'interviewer les gens. C'était le 15 juillet dernier sur la grille d'été de France Inter. On va retrouver donc cet homme qui tournait le dos à la vitesse, car elle empêche absolument les hommes de réfléchir. Et puis trop d'écrans qui disait ça empêche aussi de regarder la vie. C'était un Européen convaincu, on le sait. Donc on a déplié ses premières cartes routières. On était chez lui dans son jardin de Lorraine.
Je fais de l'écologie depuis 1963.
Ouais. Donc un des pionniers, il faut le dire.
Oui, peut-être un des pionniers, sûrement. En tout cas, un des plus anciens, ouais. Sans aucun doute. Et que c'est mon engagement, et parfois, dans des voyages que j'ai faits à l'étranger, une passion.
Ouais.
Je suis un homme passionné par la beauté, la majesté de la nature, et c'est ce que j'ai découvert à travers le monde. Voilà.
Alors, on va découvrir ces cartes du monde, mais on va dire aujourd'hui que cette émission est enregistrée, elle est chez vous. Autrement dit, on est à la fois dans la carte et dans le territoire, comme dirait l'autre, parce que on est sur votre terre Lorraine. Et votre terre Lorraine, eh ben, elle va commencer près du Luxembourg. Là, on a cette carte qui est dépliée. Alors, faut imaginer, du nord au sud, on a Luxembourg, Thionville, Metz, Nancy. Et là, on voit, alors, on voit Mondorf, on voit Évrange, voilà, et on a Cirque aussi, on va y revenir à Cirque, et puis on a surtout Rodemack.
Ah. Oui, c'est là que je suis né.
Oui.
C'est mon territoire. Mais je suis quelqu'un des frontières, je suis quelqu'un de ce qu'on appelle dans ma région les trois frontières, c'est-à-dire le Luxembourg, l'Allemagne et la France, qui se rejoignent. À Schengen, mot magique.
Le fameux Schengen.
Non magique.
Oui.
Qui nous a permis de circuler d'un pays d'Europe à l'autre sans douane et sans passeport et sans visa. Donc évidemment, pour moi, la frontière, c'est la frontière de l'Europe tout entière. Et nos frontières à nous sont des frontières que Robert Schuman, qui a été un peu mon grand-père, appelait des frontières qu'il faut dévaluer. C'est-à-dire des frontières qui ne nous embêtent pas,
ouais.
Qui nous permettent un contact fraternel et amical avec nos voisins.
Alors là, on était sur Schengen, on était donc sur la Moselle.
Oui.
Alors racontez-nous quand même un peu ce paysage avant de revenir sur Rodemack, votre ville d'enfance. Parce que là, c'est très beau. Il y a des vignes extraordinaires. C'est baigné par le soleil. C'est délicieusement encaissé. Il y a Cirque-les-Bains.
Cirque. Oui, quand on va de chez moi à Cirque-les-Bains, il se produit un changement radical de paysage. Nous sommes ici dans la vallée de la Moselle, qui est une vallée très ouverte, et en arrivant vers Cirque-les-Bains, la vallée s'engorge.
Ouais.
Elle s'engorge et elle restera comme ça jusqu'à Coblence, où la Moselle se jette dans le Rhin. Par conséquent, la vraie frontière géographique devrait naturellement être avant Sierck. Et elle est après Sierck. Donc la France a gagné 3 km. En 2000 ans. En 2000 ans, on a gagné 3 km. On n'est plus tout à fait sur la frontière naturelle. Mais cette frontière, elle se lit dans le paysage. Parce que lorsqu'on arrive au point frontière, donc ouais, tout près de Schengen, au Luxembourg, on voit que le paysage est complètement coupé en deux. Du côté luxembourgeois, ce ne sont que des vignes. Et du côté français, ça n'a été jusqu'à tout récemment que des friches. Donc on avait d'un côté les vignes, de l'autre côté les friches et puis surtout la forêt. Pourquoi ? Parce que autrefois il y avait beaucoup de vignes aussi du côté français. Mais nous étions à ce moment-là annexés à l'Allemagne. Et mes parents allaient souvent voir leurs cousins de Sierck, j'allais d'ailleurs avec eux, et on me racontait que le cousin du Sierck, pendant toute l'annexion, avait été très très pro-français, en attendant que la France revienne, comme tous les Lorrains d'ailleurs, qui n'ont jamais accepté l'annexion. Alors, ils entendaient d'ailleurs, pendant la guerre de 14, les roulements du canon à Verdun, on les entendait jusque chez nous. Et enfin, voilà, 11 novembre, les Français reviennent. Merveilleux. Catastrophe. Ils reviennent avec les vins d'Algérie. À l'époque, le vin d'Algérie était très très bas en prix et nos vignerons de Sierck ne pouvaient plus
rivaliser
et ils ont été tous ruinés et les vignes ont disparu. Ouais. Voilà, ça s'est passé comme ça. Et maintenant, on voit que les vignes reviennent. Il y a d'ailleurs un AOC, une appellation d'origine contrôlée, sur le vin de Sierck et le vin de la Moselle. Donc nous rattrapons en quelque sorte les errements de l'histoire.
On poursuit le voyage de la vie de Jean-Marie dans quelques instants. On va aller à Rodemack, dans sa ville natale.
Adossé à un chêne liège, je descendais quelques arpèges en priant Dieu, Bouddha, que sais-je, est-ce que tu penses à nous un peu? Le monde est aux mains de stratèges, costume noir, cravate beige, turban blanc comme la neige, qui joue de bien drôles de jeux. Il y a dans nos attelages des gens de raison, de courage, dans tous les camps, de tous les âges, dont le seul rêve est d'être heureux. On a dressé des cathédrales, des flèches à toucher les étoiles, dit des prières monumentales. Qu'est-ce qu'on pouvait faire de mieux? Êtes-vous là? Êtes-vous proche ou trop loin pour entendre nos cloches? Gardez-vous les mains dans les poches ou est-ce vos larmes quand il pleut? D'en haut de vos très blanches loges, les voyez-vous qui s'interrogent? Millions de fourmis qui pataugent, la tête tournée vers les cieux. Sommes-nous seuls dans cette histoire, les seuls à continuer à croire? Regardons-nous vers le bon phare où le ciel est-il vide et creux, adossé à un chêne liège, pris comme dans les fils d'un piège. Je descendais quelques arpèges, je n'avais rien trouvé de mieux. On vous attend, on vous espère, mais c'est le doute et le mystère que vous m'aurez appris le mieux, adossé à un chêne liège. Je descendais quelques arpèges par un après-midi descendait quelques arpèges par un après-midi pluvieux.
Et bien toujours avec Jean-Marie Pelt et ses cartes routières chez lui depuis la Lorraine. On va revenir quand même sur votre commune natale qui est Rodemack. On est au-dessus donc de la Moselle et on a alors on va prendre quoi ? On va prendre la petite départementale 57. Je vois Puttelange, les Thionville, Breistroff-la-Grande. Pardonnez-moi. Et donc entre les deux, Rodemack.
Entre les deux, Rodemack.
Oui, et alors qui fait partie quand même des plus beaux villages de France.
Oui, Rodemack est dans les 100 plus beau village de France, dans nos gens qu'il y en a plus,
oui.
Mais c'est un très beau village, il y a un château fort qui domine tout le village. Quand on est sur la terrasse du château, on voit au loin la vallée de la Moselle, et Rodemack a été aussi un fort qui a défendu la patrie française.
C'est pour ça qu'on parle de petite Carcassonne de l'Est.
Absolument, parce qu'il y a les remparts qui sont restés pratiquement intacts. Et en 1815,
peu après votre naissance,
ça allait mal pour la France, mal pour la France. Et nous sommes exactement à la frontière, parce que Rodemack, ça a tout été. Rodemack a été luxembourgeois, a été allemande, a été française, a été espagnole. Enfin, il y a tout eu. On a été tout chez nous. C'est pas comme à Brive-la-Gaillarde où on est français depuis très longtemps.
Oui.
Et il y avait dans le château fort le général Hugo, qui était le père de Victor Hugo, et qui a flanqué une pile aux Allemands, mais malheureusement ça n'a pas beaucoup servi, parce qu'à ce moment-là, on avait Waterloo, donc on a tout perdu quand même. Mais voilà ce qui s'est passé à Rodemack, et ça fait partie de notre histoire. Et il faut rappeler que Victor Hugo n'a pas supporté le régime de Napoléon III et qu'il s'est exilé, il s'est exilé. Et il a été longtemps au Luxembourg. Et il est venu souvent à Rodemack, dans le village où était son père.
D'accord.
Et on montre à Rodemack encore un portail, qui est la maison dite des Ducs de Bade, ou des Baillis. Et il paraît que Victor Hugo s'est émerveillé devant la beauté architecturale de cette grande porte.
Mais alors, à Rodemack, il y a aussi le jardin d'enfance. Il y a la maison et le jardin d'enfance, si on fait un petit zoom là-dessus.
Ah oui, j'avais oublié.
Ah oui, parce que c'est votre ville de naissance, c'est pour ça que c'est pas que du tourisme. Hein, donc,
c'est le jardin où j'ai été concocté.
Oui.
Je suis quelqu'un qui a été conçu et réalisé...
Dans le jardin.
Dans le jardin.
Ah oui.
Oui, il semblerait que ça soit dans le jardin qu'on m'ait fabriqué.
En tout cas,
ce qui est tout à fait sûr, c'est que ma maman avait du mal à me porter. Après ça, elle a peut-être eu du mal à me supporter, je ne sais pas. Mais elle était dans la petite logette du jardin, qui était le lieu où j'ai moi-même plus tard préparé tous mes examens, à la fin de l'année universitaire, quand j'étais étudiant à Nancy. Et ce jardin était très beau, parce que c'était un jardin suspendu, comme les jardins de Babylone. Il y avait 5 étages. Il y avait un étage avec la petite logette où je travaillais, et où maman m'a porté avant de me faire voir naître. Il y avait l'étage au-dessus qui était l'étage de la tonnelle. C'était une belle tonnelle avec des aristoloches qui grimpaient sur une structure en fer. Puis dans la tonnelle, à côté de la tonnelle, il y avait les belles pivoines. J'adorais ces pivoines rouges. Oui. Le rouge de la pivoine, c'est magnifique.
Et vous les aimez toujours ? Il y en a à côté, là.
Oui,
c'est dans votre jardin. Oui.
J'ai le goût de la pivoine. Et alors, pour la fête Dieu, on ramassait les pétales de la pivoine, on les mettait dans un petit panier, le petit panier, on nous l'accrochait au cou, et puis on suivait la procession du Saint-Sacrement.
Mmh.
Et devant chaque reposoir, parce que ça commence à se fatiguer naturellement en traversant tout le village, il fallait qu'ils se reposent. Il y avait donc des reposoirs, c'était des petits hôtels devant les maisons. Et à chaque reposoir, il y avait une bénédiction de Saint-Sacrement, et on prenait les pétales et on les jetait comme ça, hop, on jetait les pétales, et c'était tout rouge par terre. C'était très beau. L'étage suivant, c'était l'étage du verger. Alors, il y avait les mirabelles, il y avait les couettes, mais il y avait aussi la tourelle, parce qu'il y avait la tourelle et il y avait encore le rucher que je suis en train d'oublier.
Oui.
Alors ça, c'était le quatrième étage, le rucher. Et ce qui était très beau, c'était que près du rucher, tout autour du rucher, il y avait des fleurs mellifères. Il y avait de la mélisse que mon grand-père, c'était le jardin de mon grand-père. J'avais 4 ans quand je parle de ce jardin. Il y avait de la mélisse, il y avait des iris, il y avait des lys. Oh, ça sentait bon, Denis, ça sentait bon. C'était merveilleux. Et mon grand-père me prenait sur ses genoux. Et je sentais sa barbe piquante, et puis je sentais l'odeur de transpiration. Je disais, grand-père transpire, il est fatigué, grand-père. Alors, grand-père me racontait les contes d'Andersen et les contes de Perrault. Et puis il me racontait comment les abeilles vont sur les fleurs. Qu'est-ce qu'elles vont faire sur les fleurs? Il me racontait que les abeilles allaient faire des bébés sur les fleurs. Et puis il me racontait aussi le petit Jésus. Et puis le bon Dieu. Alors j'ai appris la nature et la spiritualité en même temps sur les joues de mon grand-père quand j'avais 4 ans.
D'où le jardin du bon Dieu que vous avez écrit, entre autres.
Ah oui, c'est
ça. Oui,
c'est
ça, oui, bien sûr.
C'est vraiment intéressant parce que là, on est donc à Rottemac dans votre jardin. Au-delà d'avoir été. Donc, vous êtes un enfant, on a bien compris, qui a été conçu dans le jardin. Donc, vous êtes un enfant qui est né dans un chou ou dans une rose, je ne sais pas.
Bon, c'est ça.
En gros, c'est ça. Et avec quand même ce grand-père, et aussi donc un père, on va dire, fondateur pour la nature. C'est-à-dire que vous aviez compris tout petit ce qu'était en gros un écosystème à une époque où on ne connaissait pas ce mot-là. C'est-à-dire que tout était relié. Il fallait que ça marche ensemble.
Pas vraiment, on ne connaissait pas le mot écologie non plus. Mais il fallait que tout marche ensemble. Et alors mon grand-père, il faisait du bio sans le savoir, parce que avant la guerre, il n'y avait pas les pesticides, il n'y avait pas les engrais, il n'y avait rien de tout ça. Il y avait le fumier, et c'était un jardin bio, par conséquent. Et alors il connaissait vraiment tous les trucs. Il mettait des œufs forts pour qu'il n'y ait pas de taupe, il mettait alors justement des plantes aromatiques pour que les insectes qui aillent sur les aromatiques soit les insectes qui mangeront les mauvais insectes qui vont sur les carottes ou sur les oignons, et puis mettez les oignons et les carottes ensemble, parce que l'odeur de la carotte fait fuir le parasite de l'oignon, et l'odeur de l'oignon fait fuir le parasite de la carotte. Et puis des fois, il ajoutait des poireaux, parce que les odeurs de l'oignon et les odeurs de carottes font fuir les parasites du poireau. Il savait tout ça. C'était le compagnonnage des plantes entre elles, et c'était l'écologie. C'est ça. Mais on ne savait pas. Mais quel grand-père j'ai eu. Et puisqu'on est à Rodemack, nous avions un député qui était Robert Schuman, le fondateur de l'Europe. Alors, mon grand-père est mort en 1941 pendant la guerre, alors que nous étions à ce moment-là en Auvergne. Et Robert Schuman est devenu ensuite comme mon second grand-père, parce que c'était un ami de la famille. Alors j'ai eu de très très bons grands-pères.
Oui, j'ai eu de très bons grands-pères.
CO2 Mon Amour avec Denis Chessou sur France Inter.
Jean-Marie, là, on a donc cette carte. Si on va un petit peu plus au sud, on a Nancy et Metz, donc Moselle et Meurthe-et-Moselle. Là, c'est la partie donc, étudiante et aussi la partie enseignante.
Oui, alors j'ai fait mes études secondaires au lycée de Thionville. Ensuite, j'ai fait un stage en officine de pharmacie à Thionville pendant 12 mois. C'est comme ça que commençaient autrefois les études de pharmacie. Et puis, j'ai été à la fac de pharmacie de Nancy. Et à la fac de pharma de Nancy, j'ai obtenu mon diplôme de pharmacien, puis mon doctorat, puis l'agrégation que j'ai passée naturellement à Paris.
Bien. Et voilà. Donc, après, on arrive sur Metz. Vous avez une passion pour cette ville. Vous avez été élu, d'ailleurs, pendant deux mandats. Que dire de cette ville ? Je veux dire que c'est vrai que vous avez un peu évité quand même un joyeux massacre à une certaine époque, parce qu'en gros, on voulait des voies rapides à peu près partout. Bon, et puis il y a eu création de jardins. Mais cette ville-là, comment pourriez la définir ?
Comme une ville profondément attachante qui n'a pas eu de chance. Qui n'a pas eu de chance à travers l'histoire. Alors, il faut savoir que quand j'étais maire adjoint à Metz, chargé de l'urbanisme, j'allais naturellement souvent dans les ministères à Paris. Et au ministère de la Culture, on m'a dit plusieurs fois qu'il y avait 3 villes en France qui avaient de grands témoignages de l'architecture de toutes les époques, c'était Lyon, Poitiers et Metz. Et à Metz, nous avons effectivement une ville qui a été romaine, importante à l'époque romaine. Nous avons par conséquent beaucoup de vestiges romains, notamment un grand aqueduc, etc. C'est une ville qui, pendant le haut Moyen-Âge, a pris très bien le relais de la romanité, ce qui était difficile dans de nombreuses régions, avec aussi des témoins d'une période où on n'a pratiquement plus rien, qui n'a pratiquement plus rien laissé. Nous avons une église du IVe siècle. On dit que c'est l'une des deux plus vieilles églises de France, avec Ligugé dans la Vienne, bon, qui a été restaurée, que j'ai fait restaurer.
Disons quand même quelques mots aussi de la pierre de Jaume. Ça, c'est extrêmement important parce qu'il y a des carrières.
Tout à fait. C'est une pierre jaune ocre. On peut dire que Metz est une ville blonde. Comme on dit, Toulouse, c'est la ville rose, mais c'est une ville blonde. Et cette blondeur, nous l'avons appareillée, nous l'avons mariée à la verdure, parce que ben, c'est une ville jardin, avec beaucoup de jardins, une ville très verte. Et puis nous l'avons mariée aussi avec l'eau, parce qu'à Metz, il y a un système d'îles, la Moselle fait des îles, il y a un affluent qui s'appelle la Seille, et il y a un plan d'eau qui jouxte le centre-ville, avec un paysage magnifique quand on passe sur l'autoroute. Beaucoup de touristes s'arrêtent à Metz quand ils voient la ville en passant le long du plan d'eau sur l'autoroute, où on voit la cathédrale qui émerge et quelques beaux clochers. C'est une très belle ville. Alors elle n'a pas eu de chance parce qu'il y a eu les annexions, parce qu'il y a eu ensuite la perte de la sidérurgie, parce qu'il y a eu ensuite la perte des militaires quand tout d'un coup on nous a pris tous les régiments. Donc voilà, je défends Metz avec vigueur.
Lorsqu'on regarde cette carte, donc on est avec vous Jean-Marie, évidemment il y a tout le bassin malheureusement sinistré, hein. Thionville, juste au sud il y a Florange, donc là c'est tous les hauts fourneaux. Alors si on va vers le plateau Lorrain, là c'est intéressant parce que c'est là où nous sommes en fait, hein. on est à 20 km de Metz, on voit la forêt de Saint-Hubert là qui n'est pas loin, et puis alors on a plein de communes, si on prend les 10 petites départementales, on voit Menkirch, Saint-François-la-Croix, le Hackenberg, Bibiche, ah oui il y a Bibiche aussi, donc ça existe. Hein.
Il faut missionner Bibiche.
Oui.
Le Hackenberg c'est un fort, oui. C'est un fort de la ligne Maginot.
Ah.
Pas la ligne Inimaginot, la ligne de M. André Maginot.
Oui, grand visionnaire.
Grand visionnaire qui a construit une ligne fortifiée avec des forts tout le long. Il y a le fort de Cattenom qui est connu aussi. Mon père y a fait la guerre en 39. Il était dans un fort de la forêt de Cattenom. Et puis les Allemands, ben, ils sont passés à côté.
Ils ont regardé la carte aussi.
C'est
et hop, ils sont là, juste passés à côté.
Ils ont passé à côté.
Eh oui. Bon, enfin, ça fait marcher le bâtiment quand même.
Oui, ça a bien fait marcher le bâtiment.
Très bien. Lorsqu'il fait marcher le bâtiment aussi, là, à la fois, on l'a sous les yeux avec la départementale numéro 1. Et puis si on se retourne, là, dans votre jardin, on voit les quatre beaux panaches blancs de Cattenom.
La centrale nucléaire de Cattenom, elle m'a donné des soucis, vous ne pouvez pas imaginer. C'est l'époque où j'étais jeune et ardent.
Oui.
Bon, je me suis opposé à ce projet pour tout un tas de raisons, parce que je crois que le nucléaire, ce n'est pas la solution. Et à l'époque, le nucléaire, c'était la solution.
Ah ben, c'est-à-dire d'autres.
Qu'on n'aurait plus jamais de problème d'énergie puisqu'on avait le nucléaire. Bon. Alors j'ai mené une grande bataille. C'est l'époque où j'étais un activiste, comme on dit aujourd'hui. J'ai mené de grandes batailles, j'ai organisé des manifestations dans les rues, à Thionville, j'ai parlé d'un balcon, enfin c'était...
Oui, voilà. J'étais quasiment zadiste.
Et puis, oui, tout à fait, mais comme j'ai compris, alors ça c'est très important, comme j'ai compris que l'État ne céderait pas, et que de toute façon il ferait Cattenom, quoi qu'il arrive, pour une raison très simple, c'est qu'on se disait... que l'opposition à Cattenom serait peut-être moins forte que dans d'autres régions, parce qu'on considère les Lorrains comme des gens qu'on peut mener en bateau, on n'est pas des Bretons, nous. Mmh. quand on l'a vraiment en Bretagne, on recule tout de suite. En Lorraine, on nous tape dessus et on dit ils baisseront les signes comme ils ont dû le faire souvent dans leur propre histoire.
À Plogoff, c'était plus chaud quand même.
C'était beaucoup plus chaud. Alors j'ai vu M. Giraud, le ministre de l'Industrie, M. Dornano, le ministre de l'Écologie, et puis j'ai plaidé pour que si on faisait 4 normes, on mette 2 enceintes de béton, et pas une, pour augmenter la protection. Alors j'ai plaidé ça, parce que sinon tout ce que nous avions fait ne servait à rien. Et un matin, vers 10h du matin, je reçois un coup de téléphone de M. Dornano, le ministre donc de l'Écologie, qui me dit, écoutez, M. Petre, on est d'accord avec vous, on va faire les 2 enceintes de béton. Et à partir de là, dans toutes les centrales françaises, il y a eu 2 enceintes de béton. Ah. Donc c'était un combat qui n'a pas été inutile.
Alors avec Jean-Marie, à d'autres occasions, on avait dépillé des cartes du Togo, de l'Amérique du Sud, de l'Afghanistan, de l'Iran, de l'Irak, de l'ancienne Mésopotamie, où il est allé donc herboriser. Et je vous avais déjà diffusé un certain nombre de sons avec Jean-Marie. Alors là, on va quand même ouvrir aussi une carte de l'Allier, parce que ça, il y tenait beaucoup. On est à l'ouest de Vichy. Je lui disais, mais où sommes-nous là précisément? Parce que, bon, j'ai pas mes lunettes et je vois pas.
Marcia en Combrailles. C'est après l'épisode du jardin de mon grand-père. Nous avons été réfugiés pendant 6 ans, pendant toute la période de la Deuxième Guerre mondiale, à Marcia en Combrailles. Et pour moi, ce sont des souvenirs aussi merveilleux que ceux du jardin de mon grand-père. J'ai eu une petite enfance très heureuse. Ce qui m'avait frappé, ce qui nous avait frappé, mais moi aussi parce que j'avais pas mes yeux dans mon pantalon, c'était la manière dont ces gens nous ont accueillis comme réfugiés lorrains, avec une gentillesse, avec un dévouement. Alors nous étions près d'une ferme, et nous avions aussi une autre ferme où nous allions chercher le beurre. Et cette ferme était extraordinaire, parce qu'elle était comme elle aurait été en l'an 1000, vous savez, un toit de chaume, un sol en terre battue, un âtre tout noir, un rouet pour filer la laine de mouton, et puis un pressoir pour faire de l'huile, enfin, parfaitement autarcique. Donc on avait tout. On avait de quoi manger. On n'avait pas du tout les rationnements qu'il y avait dans les villes, parce que dans les villes, les gens, ils claquaient la dalle, comme on dit. Moi, j'allais à la poste toutes les semaines apporter des colis pour nos amis lorrains dispersés dans les grandes villes en particulier. Il y en avait à Lyon. À Lyon, il n'y avait rien à manger du tout. Il y avait aussi dans le Var, c'est encore pire. Il n'y avait rien du tout dans le Var. Il n'y a que les tomates qui poussent dans le Var. Et si la Côte d'Azur peut se nourrir convenablement, c'est parce que le reste du pays lui apporte ce qu'il faut. Parce que vous regardez le paysage à la Côte d'Azur, c'est pas des champs de blé.
Il y a quand même des melons un petit peu. Enfin, il y a l'arboriculture.
Il y a l'arboriculture, voilà, oui. Et puis il y a les tomates. Oui. Bien sûr, et les melons, bien sûr, mais ça suffit pas.
Et le thym, et le romarin, et la sarriette.
Ça ne suffit pas non plus. Et ce que j'aimais à Marcia aussi beaucoup, c'était le moulin des barreaux.
Là, je vois une rivière qui s'appelle la Tartasse.
Voilà. Ah, j'ai pas connu la Tartasse,
moi. Ben si, regardez, la Tartasse, là, elle est là, c'est à Basse à Marcia. Ah, 495 mètres. Voilà.
Oui, c'était 500 mètres, tout à fait.
Pas loin, vous avez le Bourron.
Ben écoutez, j'apprends quelque chose.
Ben oui, ça sert à ça.
Ça, c'est la rivière dans laquelle je baignais.
Ben oui, c'est
avec
ça.
Mon papa.
Vous vous en souvenez encore? Vous ne vous en souvenez plus? Mais
oui, mais je ne savais pas que ça s'appelait la Tartasse.
Eh ben si, c'est ça.
Moi, j'ai appris quelque chose ce matin, c'est très précieux.
C'est bien.
Et puis, il y avait à Marcia aussi une belle église romane en roman auvergnat qui était très belle. J'étais impressionné parce que à l'intérieur c'était sombre, très sombre. Puis au pied des voûtes c'était un petit peu vert, vous savez. Il y avait du salpêtre, puis il y avait des algues qui poussaient là. J'étais enfant de cœur. Alors j'étais enfant de cœur, puis j'étais très pieux quand j'étais petit, oh là là. Alors je me souviens qu'un vendredi saint, après avoir célébré la mort de Jésus, j'étais en larmes, naturellement, comme
sûr,
il se doit.
Final, oui.
Et l'office s'est terminé par la phrase suivante. mourons tous pour lui, puisqu'il est mort pour nous.
Aïe, aïe, aïe.
Donc j'étais sur le point de mourir. Et puis on est sorti avec le curé, qui était un homme charmant, gentil comme tout, et qui me dit, viens Jean-Marc, Jean, il me dit, Jean, viens, petit Jean, il dit, viens petit Jean, on va prendre un bon café. Oh, j'étais scandalisé. Mais non, je lui ai dit, on doit mourir.
Ah bah oui, mais ça c'était pendant la messe,
un bon
café.
Un bon café.
Petite résurrection avec un café.
Oui, on a ressuscité prématurément.
Bah, c'est ça, donc ça,
oui,
c'est...
Oui, j'ai des bons souvenirs de Martial.
Ah bah tout à fait. Alors on va retrouver notre raconteur, notre conteur, notre passeur du vivant avec sa chaleur, c'est pas la peine de vous le dire, vous le savez. Et nous avons retrouvé bien sûr une petite balade dans son jardin, ce sera juste après Ella Fitzgerald. On est pas mal quand même sur France Inter, CO2, mon amour, avec Jean-Marie Pell. C'était bien sûr aussi sa radio. Alors, en fait, ces Mirabelliers, ces Noyers viennent de me téléphoner. Ils m'ont dit, comme moi, comme nous, avec des larmes et de la sève dans les yeux. Ils me disent, mais et nous, on a besoin de l'entendre dans le jardin. Ah, vous inquiétez pas, c'est prévu. On était en août 2014 et donc c'était avec Jean-Marie. Et là, on se promenait dans le jardin. On savait jamais, vraiment à chaque fois, on ne préparait rien quand on était dans le jardin. Et puis ça partait comme ça. Bon, où est-il dans ce grand jardin? Où êtes-vous, Jean-Marie?
Je suis près de la rose.
Ah, il est près de la rose, voilà.
Près de la rose.
Ah bah oui, on peut même vous...
Oh, Denis, c'est une rose extraordinaire.
Ouais.
C'est une rose remontante. Mais elle n'était pas descendue avant.
Ah, c'est ça.
Parce qu'elle n'a pas fleuri pendant cet été. Je pense qu'elle a souffert du froid et du manque de soleil. Et je m'ennuyais après elle cet été. Et voilà qu'aujourd'hui... Elle a éclaté son bouton.
C'est parce que
Oui, c'est parce que tu es là.
Mais oui, c'est ça.
Oui, oui, c'est absolument. Il n'y a aucun doute là-dessus. Oui. C'est absolument clair. Ouais. Et puis elle tient compagnie au gros couetier,
ah oui,
qui est bourré de couettes. Par terre, c'est tout bleu.
Ah, je confirme, on a l'impression de marcher sur la mer, oui, hein, lorsque... quand on est dessous.
Tout à fait, tout à fait, parce oui, que c'est tout bleu.
Oui. Et, voilà. Alors, les noyers ne sont pas encore complètement au point. Il y en a un à droite. Alors tout ça, évidemment, quand je dis c'est bio, c'est même pas la peine de dire ça, c'est qu'ils ne sont pas traités, quoi, en fait. Ils sont...
Tout le jardin est bio. Il n'y a pas un gramme ouais, de chimie dans ce jardin. Et le noyer est en avance, bizarrement. On est quand même début septembre, d'habitude c'est plutôt vers la fin septembre, ouais, mais il s'est empressé parce qu'il savait où vous veniez.
Ben c'est ça.
Et que vous lui avez fait honneur.
Oui, ah ben,
voilà, vous partirez avec un sac de noix.
Oui.
Et c'est
oui,
très important. On part toujours avec un sac de ce jardin.
Et on ne pourra pas les distribuer à nos amis qui nous écoutent, qui le regrettent, parce qu'une noix de Jean-Marie Pell, quand même, c'est quelque chose, c'est une belle valeur symbolique.
Ils ont la voix.
Ils ont,
mais
oui.
Ils n'ont pas la noix, mais ils ont la voix.
Ils ont la voix, c'est déjà pas mal. Ben nous, on va casser la noix et pas forcément casser la voix. Et là, d'ailleurs, en avançant doucement, là, ce qui est très intéressant, c'est que dans votre jardin, on ne l'avait pas dit ça, mais en fait, vous pratiquez un peu la coupe différenciée, c'est-à-dire que vous laissez
oui,
des touffes,
oui,
et oui, des bandes absolument enherbées.
Oui.
Un côté un petit peu punk que l'on aime bien sur France Inter, voilà.
Absolument.
Du jardin.
Oui, parce qu'on est respectueux de la biodiversité, alors on laisse des espaces qui sont en herbe.
Ah, ouais, ouais.
Notre jardinier, il est très sensible à l'écologie. C'est très bien d'avoir un jardinier comme on a nous.
Bah écoutez, je pense qu'il n'avait pas le choix quand même avec vous, non? Vous l'auriez viré.
nous avons partagé nos sentiments,
ouais,
et nous étions d'accord.
Alors c'est là, une fois de plus, et on le sait depuis des années, que vous réfléchissez, que vous devisez. C'est pas là que vous écrivez, mais c'est parce que là vous écrivez, vous plutôt derrière dans la cuisine.
Hein. Oui. Oui, dans la cuisine, oui.
Oui, je sais bien.
Oui, hein. C'est très original.
Mais en revanche, les idées fonctionnent et viennent ici. Aujourd'hui, alors c'est toujours évidemment, à chaque fois qu'on se voit, on se dit, mais jusqu'où va-t-on aller? Mais comment vous voyez un peu l'état de notre très belle société?
Ah, une douce décadence. je croyais qu'on était légèrement décadent, mais je fais bouger le curseur et je trouve qu'on le devient de plus en plus. Alors, ça me rappelle l'époque où le paracétamol n'était pas encore le remède miracle contre toutes les douleurs, contre les maux de tête, etc.
Ouais.
C'était l'époque de l'aspro.
C'est ça.
Je vous souviens de l'époque de l'aspro,
oui,
tout
oui,
le monde
oui,
prenait de l'aspro. Alors l'aspro, c'était des comprimés, c'est-à-dire que pour fabriquer ce comprimé, on pressait fort la poudre et puis elle se tenait ensemble. Et puis on disait, l'aspro, il ne faut pas la prendre comme ça, il faut la prendre dans l'eau. Mmh. Alors on mettait l'aspro dans l'eau et alors on assistait à une lente désagrégation, une délitation du comprimé avec des grumeaux qui partaient dans tous les sens. Dans un désordre complet.
Oui.
Et je trouve que c'est une très belle image du fonctionnement de notre étonnante société.
Oui.
Oui, c'est comme ça que je vois les choses.
Oh.
Ça se délite.
Oui. Mais joyeusement, c'est ça qui est.
Joyeusement, d'ailleurs, le problème, c'est qu'on rit.
Oui, bah,
oui.
Il vaut mieux.
Je suis très en forme ce soir.
Oui, ce que je vois.
Oui, très, oui.
Oui, c'est...
Non, mais je pense ça quand je lis le journal.
Ouais.
Je suis toujours stupéfait et je me dis, ça se délite gentiment.
Alors là, on passe à côté. Ah ben si, il y a quand même, là, il y a, bon, y a quelques mûriers, mais il y a aussi le groseillier. Et ça, c'est intéressant. Parce qu'on ne le sait pas forcément, mais vous devez votre vocation grâce à la groseille, Jean-Marie.
Oui, oh, ça c'est une histoire très drôle. J'ai passé mon agrégation de pharmacie.
Oui.
Avant, j'avais fait une licence et sciences et des études de pharmacie. Et puis, comme j'avais autrefois eu l'idée de rentrer à l'ENA, et qu'on m'avait dit dans ma famille... Oui, ça, j'aimais beaucoup.
Ah, oui.
Et dans ma famille, on m'a dit, mais voyons, c'est pas le petit Jean de Rodemack qui va rentrer à l'ENA. Alors, j'ai fait l'Institut d'administration des entreprises, toujours avant mon agrégation, Et puis, ça a bien marché. J'y suis sorti premier de la promo. Et voilà-t-il pas que les collègues professeurs de la fac de droit, deux d'entre eux, se sont mis dans la caboche que je devrais faire maintenant une agrégation de droit. Alors j'ai commencé une licence de droit.
On n'est toujours pas la grosse, mais on va y arriver.
On va y arriver, on est tout près. Et puis, j'ai fait la licence de droit pendant toute une année. Et puis, à la fin de l'année, j'ai commencé à étudier mes cours. Alors, j'en étais arrivé en droit privé, au concubinage. Et maman est sortie à ce moment-là de la cuisine et montée au jardin, me voit travailler. Elle me dit, qu'est-ce que tu fais, Jean ? Oh, j'ai dit, écoute, je revise le mariage. Bon, moi, je vais cueillir les groseilles. Pour faire de la gelée de groseille. À un moment, elle se met à cueillir les groseilles, et tout d'un coup, elle crie et dit « Viens m'aider !» Ah, j'ai dit « Je peux pas, hein, je prépare mon examen. »
J'ai un mariage sur le feu.
Oui. Alors elle me dit « Jean, mais tu es vraiment fou. Mais pourquoi tu t'es maintenant mis dans la tête de faire des études de droit, puisque tu as déjà fait les sciences, tu as déjà été à la fac de droit, tu as fait la pharmacie. Quelle idée !» Oh, je me suis dit, oui, quelle drôle d'idée.
Oui.
J'ai dit, je viens t'aider à cueillir les groseilles. J'ai fermé tous les cours et le droit était fini. Et c'est ainsi que le droit a fini dans les groseilles. C'est un épisode important de mon existence.
Bien sûr.
Qui m'a réorienté tout droit dans la pharmacie.
Continuez à faire le tour de votre jardin. C'est assez grand quand même, hein, mine de rien. Voilà.
Oui, c'est grand. C'est un demi-hectare.
Ouais, c'est
oui,
ça.
C'est un beau jardin, oui, c'est vrai.
Et puis là c'était beaucoup. Moissonné par votre voisin, là, ça y est,
oui.
C'est fait.
Oui, ça s'est fait. Beaucoup d'arbres et pas de murs. Je ne voulais pas de murs.
Non. Enfin, si, avec les ronciers, c'est tout.
Oui, avec les ronciers, ouais, oui. Pas... Et puis avec les érables, les grands érables qui nous séparent de la route. Hein. Ouais. Oui.
Et là, cette année, c'était du blé, hein, qu'il y avait.
C'était du blé, absolument. Ouais.
Oui, ils changent. Hein. Tous les ans, ils changent de culture.
Tout à fait. Ça fonctionne comme autrefois.
Alors, quand on regarde un peu l'état, on va dire, écologique des choses, cette émission quand même dédiée à l'écologie, qu'est-ce que vous avez un peu envie de dire lorsque vous voyez... Alors, bon, on rappelle simplement que la France, de toute façon, est quand même plus ou moins ligotée par de la finance extérieure, par des multinationales, qu'on représente 1% de la population, enfin à peine. Et pour autant, on est un pays génial. Bon, donc... Mais d'un point de vue écologique...
Je suis très inquiet pour le réchauffement climatique. Je suis l'évolution de la météo depuis 1963, année où j'ai commencé à travailler l'écologie, il y a donc très longtemps, plus de 40 ans, et je remarque qu'il y a des phénomènes météorologiques de plus en plus violents et de plus en plus fréquents. Tout le monde voit ça. À l'époque... Il était arrivé, une fois je me rappelle, qui était tombé je ne sais plus où, des grelons gros comme des balles de ping-pong. Ah, alors, ça a été un événement extraordinaire. Toutes les radios en ont parlé, enfin, c'était vraiment quelque chose de très rare. Ça arrivait, mais rarement. Alors maintenant, ça arrive tout le temps. Maintenant, on voit des voitures qui nagent sur l'eau, on voit des coulées de boue, et ces événements... sont devenus très fréquents. Alors je suis inquiet, parce que ça, c'est ce qui se produit quand la moyenne des températures en France a augmenté de 1 degré, depuis le début des temps industriels.
Et avec une accélération, on va dire, de 80% depuis les 30 ou 35 dernières années. C'est surtout ça qu'il faut voir, c'est la rapidité du phénomène.
Récent et rapide, tout à fait. Et on dit, on écrit... que parti comme on est, en 2100, donc le bébé qui est né aujourd'hui aura 86 ans, il sera encore vivant, on aura augmenté les températures de 4 à 5 degrés, si on continue comme ça.
C'est vrai que c'est invivable.
C'est impossible, c'est absolument impossible. Il y a des canicules monstrueuses, il y a des sécheresses épouvantables, il y a des ouragans épouvantables, c'est impossible. Et je vois que, dans le monde entier, les gouvernements s'intéressent à la croissance et qu'à ça. Donc voilà, ça m'inquiète.
Et les multinationales.
Et les multinationales. Et ça m'inquiète énormément.
Alors Jean-Marie, il y a quand même un signe intéressant, c'est de voir les réassureurs, les réassureurs de nos assurances, qui prennent quand même très au sérieux le réchauffement climatique.
Tout à fait, les réassureurs sont très inquiets, parce qu'eux constatent le coût des indemnisations qu'ils sont amenés à faire. Et ils dépensent, je crois, aux États-Unis 4 à 5 fois plus qu'il y a 30 ans. C'est assez extraordinaire, ça. Alors, bizarrement, il n'y a pas plus de victimes humaines parce qu'on a maintenant une météo qui peut prévoir, parce qu'on a des moyens de construire avec plus de prudence, parce que les gens sont prêts à prendre des mesures de précaution. Il n'y a donc pas plus de victimes qu'autrefois, mais il y a potentiellement beaucoup, beaucoup plus de catastrophes en l'air.
Et puis, il y a quand même toutes celles et ceux qui nous écoutent. Il y a aussi des collectivités, on le sait, qui bougent. On le dit, on le répète, on l'entend. Tout ceci est quand même dans une marche, dans une autre manière d'envisager le monde, qui n'a rien à voir avec ce que l'on nous matraque à longueur de journée, quoi.
Non, il faut tout revoir. C'est-à-dire que moi, je crois qu'on est vraiment à la fin d'un cycle et au début d'un autre cycle. Ce cycle s'ouvre sur des perspectives très sombres. Le djihadisme, c'est effrayant. Je me dis toujours, dans tous les pays où j'ai travaillé, je ne pourrais plus retourner.
Oui, c'est vrai.
C'est incontestable.
Vous avez fait l'Irak, l'Afghanistan, l'Iran, etc.
J'avais tout ça, on ne pourrait plus y aller. Il y a une agressivité partout, entre les personnes, au niveau des groupes, au niveau des entreprises, au niveau des États. Alors si on fait la liste des États qui sont en tension les uns contre les autres, on a la moitié du monde à peu près.
C'est ça.
Je me suis amusé à la faire un jour, cette liste. Voilà, alors nous devons être des apôtres de la paix. La paix. Et dans l'écologie, on porte la paix. Parce qu'on dit qu'il n'y a pas que la compétition partout, il y a la coopération. Et la coopération, c'est le vivre ensemble en paix.
On ne va pas faire un recensement, on ne va pas faire l'INSEE, là, mais combien vous avez d'espèces à peu près différentes ici?
Je pense 200, en comptant les mousses qui sont... Elles sont nombreuses, les mousses, parce qu'il y a beaucoup d'arbres. Le sol est humide et ça plaît beaucoup aux mousses, ça.
Alors je ne vais pas dire que c'est presque l'autonomie alimentaire, parce qu'il va quand même manquer quelques bricoles, mais entre la ferme du voisin là à côté...
Oui, avec la ferme du voisin et nous, on est autonome.
En fait, il n'y a que le Nutella que vous n'auriez pas.
Vous savez ce qu'on ferait? Vous ne devinez jamais.
Non.
On s'en passerait.
Oui, c'est vrai. Incroyable, absolument incroyable.
On s'en passerait.
Voilà. Tenez, une plante très intéressante que vous aimez bien.
Ah, l'amour en cave.
Oui.
C'est le physalis. Oh, c'est une plante que j'aime beaucoup. Vous savez, tout le monde la connaît, cette plante-là. Ouais. C'est les lampions, les petits lampions orangés. Puis quand on ouvre le lampion, au milieu, il y a une baie toute rouge. Et alors, cette baie rouge a fait peur parce qu'elle ressemble un peu aux baies de Belladone, bien que celle de Belladone soit beaucoup plus foncée. Mais c'est la même famille des solanacées. Et les solanacées, il faut faire très attention parce qu'il y a beaucoup de poison dans cette famille. Si bien que quand on ouvre un amour en cage, on a envie de manger la baie et on se dit « Ouh là là, il ne faut pas !» Si on peut. Elle n'est pas toxique. Ouais. Elle n'est pas très bonne non plus ailleurs. Ça s'appelle l'amour en cage. C'est très joli parce que la baie est considérée comme une petite pomme d'amour.
Voilà.
Comme on appelait les tomates autrefois.
Eh bien, cher Jean-Marie, on va vous laisser, on va rentrer tranquillement. Merci Jean-Marie. Et puis, bon, vous avez raison, je vais piquer quelques noix et des couettes.
Au revoir Denis, au revoir à tous et embarquez les noix et les couettes.
Quel bonheur d'avoir pu côtoyer cet homme pendant 25 ans. Et merci Jean-Marie d'avoir fait si bon usage de ta vie au service justement de la vie. On le retrouvera régulièrement. Je vous remercie pour tous vos messages qui ont été très nombreux, plus de 500 qui sont arrivés. Le répondeur 01 56 40 40 35. On passera des messages au fur et à mesure. On reviendra aussi sur la carrière de Jean-Marie. Merci beaucoup à Caroline Debray, à Stéphane Ronxin qui réalisait cette émission, Jean-Baptiste Audibert, Pierre Jabot, le podcast, vous en avez l'habitude. Et puis les Voix du Bonheur viennent de ressortir aux éditions Fayard, donc une façon pour Pelle de nous parler d'écologie, mais avec une approche toute empreinte de spiritualité.